Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les débats parlementaires sur les révisions des lois de bioéthique ont débuté cette semaine. Les déclarations étonnantes se multiplient, comme celle de remplacer les pères par les grands-mères, et donnent un peu le tournis aussi pour nous aider à fonder notre sentiment d'injustice, pour nous aider à nous mobiliser cette émission de réflexion et de formation. PMA pour toutes, ce qu'il faut savoir, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. J'étais un peu pris de court, je m'en excuse auprès des auditeurs pour mon introduction. Ce matin, nous sommes à nouveau avec vous, Blanche Streb. Vous êtes, je le rappelle, directrice de la formation et de la recherche pour l'association Alliance Vita, auteur d'un ouvrage Bébé sur mesure paru aux éditions Arthège. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc en duplex avec nous depuis les studios de RCF à Lyon et on les remercie de cette collaboration. On a fait une émission avec vous déjà la semaine dernière. Alors, ce n'est pas, on ne fait pas souvent des émissions comme ça en série sur un livre, mais votre livre a le mérite d'être très clair et assez grand public. Donc, Bébé sur mesure avec ce sous-titre Le monde des meilleurs. La semaine dernière, on s'était penché sur un certain nombre d'avancées scientifiques. Avancer, peut-être le mot peut être sujet à questionnement. Je vais reciter, allez, deux, trois, je vais vous demander de m'aider, deux, trois de ces avancées ou de ces évolutions qui donnaient un petit peu le vertige. La FIV, trois parents, c'est-à-dire des enfants qui ont demain, qui ont demain, ça existe déjà, vous nous l'avez expliqué, trois codes génétiques, le CRISPR-Cas9, une espèce de ciseau génétique, et le diagnostic préimplantatoire, donc la possibilité de voir les maladies dont les embryons seraient porteurs avant d'être implantés dans l'utérus des femmes. Est-ce que vous pouvez nous redresser un petit tableau des évolutions scientifiques actuelles qui sont en discussion à l'occasion de ces révisions et qui peuvent faire trembler ?
Oui, vous les avez bien énumérés. Il y en a effectivement d'autres aussi. Je pense par exemple à la question des gamètes artificielles qui est aussi permise dans ce projet de loi. Avant, ça n'y était pas parce que c'est des recherches qui sont tout à fait nouvelles et le texte les autorise. C'est cette recherche qui va permettre, sans doute, en tout cas techniquement et scientifiquement, c'est plausible, de fabriquer des spermatozoïdes ou des ovocytes à partir de cellules déjà adultes, par exemple une cellule de notre peau, ou à partir de cellules prélevées sur des embryons humains. Vous voyez, en les faisant passer tout de suite à ce stade ultime de gamètes sans passer par le stade embryon, fœtus, adolescent, puberté, etc. Ça fait partie effectivement des questions qui sont vraiment des enjeux vertigineux et on va dire qu'il y a beaucoup de menaces extrêmement claires dans la communauté internationale sur tous ces, on peut dire, dérapages scientifiques ou méthodes d'apprenti sorcier. Et elles sont finalement ouvertes dans ce projet de loi de manière ciblée, mais en tout cas, c'est vraiment un premier pas dans la porte. Donc il y a vraiment de quoi être inquiet en fait avec tout ce qui est permis dans ce texte.
Vous avez été auditionné donc comme d'autres par l'Assemblée nationale. On en a parlé la semaine dernière, comme les AFC, les associations familiales catholiques, comme la Manif pour tous et d'autres entre autres représentants des cultes et religions françaises. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre sentiment sur ces discussions parlementaires. Je citais même pris de court, donc cette déclaration qu'on a entendue de suggestion de remplacement des pères par les grands-mères. Est-ce que vous êtes certainement habitué à entendre ce type de déclaration, mais est-ce que vous en avez noté certaines depuis le début de ces discussions parlementaires ouvertes cette semaine, le 24 septembre dernier, je le rappelle, qui vous ont fait bondir ?
En fait, habitué, je dirais pas que c'est le mot parce qu'il y a une indignation régulière et constante en ce moment, effectivement, devant des affirmations, des phrases qui sont posées soit dans des médias, soit au sein même de l'hémicycle ou des commissions. C'est quand même assez surréaliste, mais en fait, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans l'ère du mensonge. Et donc, nos gouvernants, nos politiques qui se battent pour faire passer des lois qui sont des mensonges, anthropologiques notamment, ils sont obligés d'avoir des arguments sans queue ni tête, auxquels pour certains on a l'impression qu'ils y croient, mais pour d'autres on se demande s'ils croient eux-mêmes.
Est-ce que vous voulez prendre un exemple,
Oui, bien sûr. Moi j'ai entendu Jean-Louis Touraine...
Donc rapporteur de ce projet
de loi. Le rapporteur des articles qui concernent en tout cas la procréation artificielle, assistée plutôt, dire qu'il n'y a pas de droit à un enfant à avoir un père. En fait, c'est ahurissant. C'est une manière de tordre la vérité. Évidemment qu'il y a des accidents de vie, des enfants qui perdent leur papa, etc., ou des couples qui se séparent, voilà. Mais tout ça, ce sont des accidents de vie. Ça n'a rien à voir avec une décision délibérée, cautionnée par la loi, de priver un enfant de son père. Il dit aussi que ce n'est pas la mère, ce n'est pas la femme qui accouche. Là encore, en se basant sur le fait qu'il y a des situations où des femmes adoptent des enfants, mais enfin, ça n'a quand même rien à voir. Et là, il vient détruire ce qu'est la maternité, dans son essence même. Enfin, c'est toutes ces choses, effectivement, on pourrait en parler des heures, qui sont vraiment, vraiment ahurissantes. On entend aussi que ce sont des progrès, que la société évolue, mais enfin, les besoins de l'enfant, eux, n'évoluent pas. Être accueilli dans une famille avec son père et sa mère, c'est un besoin évident qui n'évolue pas. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites phrases, ces petits éléments de langage aussi. Je pourrais citer le débat apaisé qu'on entend partout, qui est au fond une manière d'étouffer le débat. Un débat apaisé, mais pas de débat, quoi.
On va se pencher donc aujourd'hui sur la deuxième partie de votre livre, où vous réfléchissez donc aux conséquences pour l'enfant et pour la société de ces révisions des lois de bioéthique et de cette forme d'ultra-libéralisme, on va dire, qui concerne l'homme qui se développe. Ultra-libéraliste, l'expression n'est pas forcément que de moi en l'occurrence, hein, on l'a entendu dans la bouche d'un certain nombre d'évêques. La première attention que vous avez, c'est l'attention donc pour les enfants. Vous vous penchez sur ce que pourraient vivre ou ressentir les enfants demain, et entre autres vous posez une question, vous interrogez sur la gratuité, on va dire, de la naissance de ces enfants qui pourraient dans le fond être un peu sous pression, si je dois dire les choses de manière simple, sous pression d'avoir été choisis, d'avoir été sélectionnés. Expliquez-nous.
Effectivement, en fait, je trouve que c'est vraiment important dans tous ces débats-là de se remettre du côté de l'enfant. Donc j'ai étudié un certain nombre de travaux, de psychanalystes, de psychologues, etc., pour essayer de bien faire réfléchir à ça. Si je pense qu'il y a une énorme différence, en fait, entre se savoir et s'accueillir dans sa vie pour ce qu'on est, hein, qu'on peut entendre EST ou qu'on peut aussi entendre NAIT, pour ce qu'on est, se recevoir pour ce qu'on est, voilà, ou se comprendre comme étant le produit d'un projet, voilà, ou le résultat d'un tri entre plusieurs embryons, ou peut-être plus tard même la conséquence d'une intrusion dans le génome, dans le corps biologique. Je pense que il y a une vraiment une question qui est: est-ce que on peut être complètement soi-même quand d'autres ont voulu qu'on soit quelque chose? Par exemple, je prendrais l'exemple d'un enfant qui est né, c'était une enquête très intéressante.
Une certaine Constance, est-ce que c'est ça dont vous voulez parler?
Oui, ça peut être, c'était pas elle que je pensais là, mais oui, je peux parler de Constance, parce que là, c'est du concret. C'est une psychanalyste qui parle de ses patientes. Par exemple, Constance qui est née dans une fratrie, on peut dire, de 4 embryons qui ont été fécondés au même moment, et elle en a été la seule survivante, si l'on peut dire, puisque c'est le seul enfant qui est né au bout du compte de ces embryons. Et il y a
ces embryons qui ont été implantés, donc
qui ont été implantés, donc ils n'ont pas forcément survécu, ou voilà. Et il y a juste Constance qui est née, et Constance, voilà, c'est une petite patiente qui exprime une forme de besoin de se croire exceptionnel. On pourra en reparler. On pourra en reparler, hein, parce que c'est un sujet intéressant, mais voilà, c'est le fait de se sentir différent finalement. Et ça, c'est très concret, ça existe déjà. Et moi, j'essaye de faire réfléchir réfléchir aussi au fait que des modes de procréation qui seront des bricolages, comme vous les avez cités en introduction, la FIV à trois parents, etc., eh bien, ça peut venir profondément modifier la construction d'une personne, parce que la conception, c'est la première page de notre vie. Ça compte vraiment, ça imprime dans notre biologie, dans notre identité conceptionnelle, un certain nombre de marqueurs, et aussi c'est la manière après dont on est regardé par ceux qui nous ont créés, conçus, etc., qui modifie finalement notre manière de voir la vie et de s'accueillir soi-même.
Alors la psychanalyste que vous citez donc, s'appelle Muriel Flee-Treves. Il faut dire que c'est une psychanalyste connue et qui, entre autres, vous l'indiquez dans votre ouvrage, travaille avec René Friedman, donc l'un des pères des bébés éprouvettes. Bref, c'est pas n'importe qui. Vous citez aussi au début de cette partie, donc, où vous essayez de vous mettre du côté de l'enfant, le cas, alors pour le coup, plus connu d'Arthur Kermalvesen, qui est donc un enfant né sous X, qui a cherché à connaître ses origines. Et vous en prenant son exemple et sa quête, la recherche de son origine, vous en tirez un certain nombre de conclusions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que cet homme a fait entendre dans les médias et les leçons que vous tirez de sa quête ?
Alors Arthur, en fait, il est pas né sous X, il est né d'un donneur anonyme de sperme, parce que ses parents, son père souffrait de stérilité, donc il a été élevé par son père et sa mère, il est né d'un donneur anonyme. Et il explique la souffrance qui a été la sienne toute sa vie de ne pas connaître ses origines paternelles. Il nomme l'homme, son père biologique, comme un géniteur, mais il explique qu'il se cherche, son visage, voilà. Il y a une partie de lui qui est inexistante, et donc il s'est battu énormément auprès de la justice, auprès des banques de sperme, etc., pour avoir accès à ses origines. Et c'est notamment son combat à lui qui aujourd'hui fait que la loi envisage de lever l'anonymat des donneurs de sperme et d'ovocytes dans les procréations qui font intervenir un tiers. Et cette quête, elle est extrêmement importante à observer et à comprendre, parce qu'à ce moment-là, on avait pensé à leur place que ce n'était pas important d'être né d'un don anonyme. Or, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, ils ont créé une association et Arthur a même rencontré son épouse, Audrey, au travers de cette association qui elle-même est née d'un don de sperme anonyme. Et dans cette association, il y a énormément de personnes qui se retrouvent, qui ont toute cette quête des origines extrêmement profonde, qui parfois leur fait passer à côté de leur vie. Pour certains, ils le disent eux-mêmes, tellement ils se cherchent. Et alors, grâce aux tests génétiques, puisque aujourd'hui on peut, alors en France c'est très réglementé voire interdit, mais on peut envoyer son ADN, sa salive aux États-Unis par exemple, dans une filière de Google notamment, pour recevoir son, on va dire, quelques informations sur son génome. Et en fait, ces sociétés créent des immenses banques de données. Et elles permettent, notamment à Arthur, de mettre des gens qui sont génétiquement reliés, en lien les uns avec les autres. Et c'est comme ça que Arthur a trouvé son géniteur et qu'il a pu le rencontrer. Donc en fait, ce qu'on essayait de lui cacher par la loi et par le secret des données dans les banques de sperme, Google lui a révélé. Et ça, c'est un basculement incroyable, puisqu'il y a beaucoup de gens nés de donneurs anonymes qui ont retrouvé un père, des demi-frères, des demi-sœurs, etc. Et on observe aussi, ce qui est intéressant à découvrir, c'est qu'il y a des enfants nés d'un homme, donc leur père en fait, tout simplement. Ils savent que leur père, dans le passé, a donné son sperme et ils ont envie de trouver qui sont leurs demi-frères ou demi-sœurs, et eux aussi font une quête finalement pour retrouver ces demi-frères ou demi-sœurs. Donc c'est intéressant de voir que touche.
Quelle leçon vous en tirez justement, vous citez après donc le philosophe Jürgen Habermas en disant que tout cela peut impacter la compréhension qu'on a de soi-même. Vous expliquez que ça, et je cite, ça finit par porter atteinte à l'image que nous constituons de nous-mêmes. Le fait d'être quelque part privé de son origine, ou en tout cas que son origine soit difficilement identifiable, ou alors ne soit que de quelques données.
Oui, en fait, c'est vrai que en fait, on se fait voler un peu quelque part une partie de son histoire dans ces bricolages procréatifs, si on peut dire. Et ce que ça démontre, en fait, que notre histoire de conception, elle n'est pas anodine, en fait. Comme je le disais, c'est la première page de notre vie et elle compte dans la manière dont on va se construire, dans la manière où on va, en fait, tout simplement, c'est savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et dans les futurs ou déjà existants, comme la FIV à trois parents par exemple, situation où on vient mettre la main sur le début de la vie, ça peut changer énormément de choses dans la manière où on va se comprendre soi-même, parce qu'il y a une rupture finalement dans le fait de s'accueillir pour sa naissance en fait. Avant, on peut dire qu'on était tous égaux devant la naissance parce que on se recevait juste pour ce qu'on est. Aujourd'hui, avec l'intervention possible d'une tierce personne, d'un biologiste ou d'un scientifique, ou voilà, dans notre vie, dans notre biologie, il y a une rupture qui fait que la vie n'est plus, que la vie est devenue à disposition de quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences en fait sur les relations entre les personnes.
Alors, je vois le temps qui passe, il y aurait beaucoup de choses à dire, on va dire, du côté de l'enfant. Je voudrais en relever un dernier. Vous parlez du syndrome du survivant conceptionnel, et vous citez donc pour cela, si je ne me trompe pas, donc un psychiatre, et docteur en philosophie, le docteur Benoît Bayle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce syndrome du survivant conceptionnel ?
Alors, le syndrome du survivant, c'est très très bien décrit. C'est ces souffrances que peuvent ressentir des personnes qui ont survécu, par exemple, à un attentat ou par exemple à un tremblement de terre, quelque chose de grave en fait. Et qui développent évidemment, on ne plaque pas des clichés, hein, mais en gros, ce qui est décrit, c'est que les personnes, elles ressentent une forme de culpabilité finalement de se dire « Mais pourquoi moi je suis en vie? Pourquoi moi j'ai survécu et pas les autres ?» Et qui développe aussi pour certains une forme de toute puissance parce qu'ils se sentent finalement indestructibles. Et ça commence à se décrire pour les enfants qui sont nés de procréation médicalement assistée. Effectivement, Benoît Bayle, que vous avez cité, qui en parle extrêmement bien, est un spécialiste justement de la conception. Et il explique que, par exemple, reprenons le cas d'un de ses patients, il en a eu beaucoup comme ça, qui est un enfant qui est né après 10 ans d'échec par l'infertilité de ses parents, de stérilité, 10 ans d'attente, de désir, de souffrance dans le couple parental, d'échec de fécondation in vitro, etc. Et au bout d'un moment, ben voilà, ce petit garçon est né, et donc, eh bien, il développe une forme de, voilà, encore une fois, d'identité de conception. Et en plus, c'est la manière dont ses parents vont ensuite l'accueillir et l'accompagner et l'aider à grandir, l'éduquer, etc., qui est modifiée. Et il y a le regard sur cet enfant qui finalement, on se dit, mais on t'a attendu 10 ans pour nous tuer. Moi, je le comprends complètement. Tu es un miracle. Tu es vraiment un miracle, un survivant au milieu de tous ces échecs d'implantation. Au milieu de tous ces embryons perdus, toi tu as survécu, et donc on regarde son enfant d'une manière très particulière. Et moi je vais vous dire, en travaillant ce livre, j'ai observé à quel point c'était vrai, puisque moi j'ai eu un grand prématuré qui est né à 5 mois et 3 semaines de grossesse, donc un survivant aussi, hein, complètement un survivant. Et à chaque fois que je le présente, je suis tellement fière de lui, parce que j'ai l'impression de vivre avec un miracle vivant. Je dis, ouais, c'est mon petit battant, c'est mon survivant, c'est mon miracle, etc. Et en fait, il est comme ça un peu, c'est-à-dire qu'il se met un peu en danger parce qu'il se croit indestructible. Voilà. Et donc j'ai arrêté, moi. Je me suis dit, mon Dieu, que suis-je en train de faire à cet enfant? Je peux pas effacer son histoire de vie parce qu'elle est magnifique, mais je fais attention à ne pas le voir que sous ce biais-là. Et voilà, c'est ce syndrome du survivant conceptionnel qui est décrit donc pour les enfants nés de procréation artificielle, et d'autant plus, on le verra, je pense, par la suite, par tous les bricolages procréatifs.
Voilà, Bébé sur mesure, c'est pour rappel le titre de l'ouvrage que l'on parcourt ensemble. Ce matin, aux éditions Arthège, on fait une première pause musicale et puis on vous retrouve, Blanche Trey, pour essayer de voir après les impacts considérables pour la société après avoir vu du côté de l'enfant.
Thank you.
Emmanuel Pella.
PMA pour toutes, ce qu'il faut savoir, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec Blanche Streb, qui est directrice de la formation et de la recherche pour Alliance Vita, et auteure donc d'un ouvrage intitulé « Bébé sur mesure », paru aux éditions Artege. On avait, pour rappel, fait une émission avec elle jeudi de la semaine dernière. Et je le dis, on a choisi de faire appel à vous, compte tenu de la qualité de votre livre, mais aussi parce qu'Alliance Vita a été, on va dire, en première ligne, ou est de plus en plus en première ligne dans nombre de diocèses. On a donné largement la parole à cette association. Qu'est-ce que vous diriez, Blanche Streb, à tous ceux qui soit ne vous connaissent pas, soit ont des a priori à l'égard de votre association, voyant un peu comme des extrémistes? Est-ce que les évêques, on va dire, vous valident votre travail? Est-ce que ça pourrait aider à rassurer certains auditeurs?
Oui, on est parfois un peu méconnu ou caricaturé. Bon, les médias jouent aussi ce rôle-là. Hein. Je dirais qu'on est, on est déjà des experts de la bioéthique, puisqu'on existe depuis 25 ans. On s'est créé au moment des premières lois pour justement faire un pont entre le citoyen et le politique, pour aider chacun à comprendre ces questions complexes. Et nous avons des services d'écoute, SOS Bébé, SOS Fin de Vie, où on accueille des milliers de personnes chaque année pour les accompagner dans des difficultés, des souffrances. Et tout ça nous donne, on a le pouls du monde qui bat dans notre oreille quand on entend les souffrances de nos contemporains en lien avec toutes ces questions qui touchent à la vie. Et ça nous apprend beaucoup, et puis ça nous touche beaucoup, et ça nous permet d'essayer d'être sur cette ligne de crête entre la vérité et la charité. C'est vraiment un travail de funambule, mais on s'y attelle de tout notre cœur pour bien avoir une parole juste sur nos lèvres, et avoir aussi beaucoup de compassion pour tout le monde. Voilà,
Les évêques, du coup, je vais le dire à votre place, les évêques qui de plus en plus font appel à votre association pour développer des formations sur ces questions de bioéthique dans les diocèses. Je note aussi, là c'est le journaliste qui parle, que maintenant Alliance Vita est souvent largement citée par le journal La Croix, qui fait autorité auprès d'un certain nombre de chrétiens. Je vous propose qu'on arrête là pour la promotion de Vita, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans votre livre.
Je voulais juste dire que Monseigneur Aupoutier, à la sortie de mon livre, m'a invité à faire une conférence en tête à tête avec lui dans une des paroisses parisiennes. On était 700, et vraiment c'était pour nous un bel un beau lien qui se montrait auprès des chrétiens.
Voilà, Monseigneur Aupoutier, donc, qui est archevêque de Paris. Alors, dans votre livre, sur les conséquences, on va dire, sociétales de ces révisions des lois de bioéthique, après avoir eu un chapitre intitulé « Du côté de l'enfant », vous en avez un autre du côté de la société. Vous commencez par une phrase que vous explicitiez: l'intervention dans le génome d'une tierce personne efface la frontière entre les personnes et les choses. L'intervention dans le génome d'une tierce personne efface la frontière entre les personnes et les choses. Est-ce que vous y allez pas un peu fort, Blanche Streb?
Je crois pas, malheureusement, parce que je crois vraiment profondément que le fait de mettre le doigt sur la vie, le fait ça dit une grande démesure de l'homme que de s'approprier le mystère de la naissance, et que de considérer l'embryon in vitro comme quelque chose de manipulable, comme quelque chose qu'on pourrait transformer, modifier, dans une totale démesure, puisqu'on ne sait pas ce qu'on fait vraiment, et on prend des risques inconsidérés pour évidemment la santé des enfants. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui est profondément qui va profondément transformer les relations humaines, parce que la vie n'est pas forcément la vie n'est pas à notre disposition.
Mais Blanche Streb, juste à propos de la procréation médicalement assistée, je me fais un peu l'avocat du diable, mais certains pourraient vous dire que bien des fois ça se passe bien, et puis au final l'enfant est là, et les relations entre les parents et l'enfant ne sont pas, on va dire, aussi entamées ou altérées que semble l'exprimer cette phrase que vous avez.
Oui, bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, on souhaite à tous les enfants tout le bonheur du monde, et aussi toute la résilience du monde s'il faut dans certaines difficultés. Il y a une capacité des forces de vie extraordinaires. Et évidemment, moi, c'est plutôt, des réflexions qui sont, on va dire, pour la suite, ou pour des choses qui sont pas encore tout à fait là en termes d'intervention sur la vie. C'est une réflexion qui se veut avec peut-être de la hauteur, plus de hauteur et plus de voilà, de dans le, un peu plus dans le futur, si l'on peut dire. Mais c'est vraiment la, ce que je veux apporter comme réflexion, c'est vraiment évidemment qu'on espère que tous les enfants vont bien. On peut dire aussi que tous ceux qu'on aura triés, qui ne verront pas le jour, peut-être ne manqueront à personne. Mais ce qu'il est important de comprendre, je crois, c'est que c'est peut-être pas tant les conséquences de tout ce qu'on fait qui seront un prix à payer, quelque chose de grave, mais c'est toute la disposition intérieure que cela aura exigé, en fait, de ceux qui auront agi avec autant de démesure.
Vous avez une phrase, entre autres, « Cette mainmise sur l'être humain modifiera les relations interpersonnelles d'une manière inédite pour l'humanité. » Un petit peu plus loin, vous rappelez le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Et vous avez une réflexion autour de l'égalité, laissant entendre que cette égalité pourrait être largement entamée, que on va dire la programmation ou la manipulation du vivant pourrait entraîner une inégalité sociale importante. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point ?
Oui, je crois que c'est intéressant de voir que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y avait déjà quelque chose qui avait à voir avec la naissance. Je trouve ça intéressant de l'observer. Alors quand on dit naissance, là c'est plus, on va dire, dans les conditions sociales, sans doute, dans lesquelles on est. Moi, j'essaye de faire réfléchir à l'égalité, effectivement, qui aujourd'hui est fragilisée, comme je le disais, par le fait que on ne se reçoit plus comme on est, produit de la providence, de l'amour de ses parents, etc., mais projet parental. Et je crois qu'il y a vraiment une rupture dans les relations, là, qui n'en est d'ailleurs qu'à son début, hein, tout ça n'en est qu'à son début. Mais si, par exemple, pour être plus clair, si on s'imagine qu'il y a des... Aujourd'hui, on peut trier les embryons pour certains critères, eh bien, on voit bien qu'il y a une rupture dans l'égalité avant la naissance aujourd'hui, une rupture d'égalité dans la vie qui est in vitro, en fait.
Vous citez un certain Lee Silver, qui est professeur de biologie moléculaire à Princeton, donc grande université américaine, qui dit que l'humanité demain serait scindée en deux. C'est quoi, en fait ? C'est entre ceux qui auraient les moyens d'avoir des enfants triés et sélectionnés et ceux qui n'auraient pas les moyens, c'est ça ?
Non, c'est une réflexion qui est un petit peu plus futuriste, là encore une fois. Si un jour on arrive à programmer dans le génome des embryons telle ou telle, on va dire, capacité supplémentaire, un gène d'un gros QI, une super intelligence ou que sais-je, sachant que je suis assez sceptique là-dessus, c'est plutôt, est-ce qu'on va pas fabriquer, c'est des réflexions effectivement qui sont faites par un certain nombre d'éminents spécialistes, est-ce qu'on va pas fabriquer deux humanités, ceux qui auront pas de chance, qui seront juste voilà, ce qu'ils devaient être, justement, ou ceux qu'on aura génétiquement nantis, qui seraient un peu améliorés. Et là, on peut se replonger aussi, pour vos auditeurs qui connaîtraient ce film, dans Bienvenue à Gattaca, parce que je crois que c'est assez intéressant. Ça relève en fait toutes les difficultés sociales entre ceux qui sont super fabriqués et ceux qui sont juste les enfants de l'amour. Et je complète ça en disant que pour moi, juste les enfants de l'amour, c'est peut-être ceux qui auront le plus finalement de liberté intérieure et plus de chance, parce que par exemple, si on s'imagine avoir reçu le gène pour être un génie en maths, par exemple, ça veut absolument pas dire qu'on va aimer les maths.
Juste, excusez-moi, Blanche, sur ce point, pour ceux qui par hasard nous prendront en cours de route, qui n'auraient pas entendu la précédente émission, ce que vous décrivez, c'est forcément de la science-fiction ou c'est tout proche ? Est-ce que vous pouvez par exemple rappeler ce fameux ciseau génétique qui est le CRISPR-Cas9 ? Parce que voilà, oui. On peut ne pas saisir du coup l'actualité de votre propos.
Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle le génie génétique, et c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est vraiment de l'ordre du génie. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de couper l'ADN de n'importe quelle cellule, donc le code génétique, comme un traitement de texte, d'enlever un mot, d'en rajouter un autre, et au final de transformer la cellule, voir si on touche à l'embryon, voir la personne elle-même. C'est prodigieux, c'est extrêmement prometteur, et ça l'est déjà pour la médecine, pour soigner des maladies. Donc on peut vraiment s'en réjouir, enfin, pharmacien que je suis s'en réjouit. Mais la ligne rouge, c'est si on vient modifier l'embryon, la vie à son commencement. Et c'est là, effectivement, c'est de là que partent mes réflexions. Et alors, c'est complètement d'actualité parce que des enfants sont déjà nés génétiquement modifiés en Chine, des jumelles. Et notre projet de loi aujourd'hui, malgré ces menaces internationales, malgré cette condamnation internationale, d'ailleurs, de cette méthode d'apprenti sorcier, ouvre à la recherche sur l'embryon pour le modifier. Donc, c'est complètement, effectivement, d'actualité.
C'est-à-dire que l'utilisation de ce fameux CRISPR-Cas9 fait partie de ce projet de loi et des révisions actuelles ?
En effet, avant, il était interdit de modifier génétiquement les embryons. Ça ne l'est plus dans le projet de loi actuel. Pour l'instant, dans le cadre de la recherche, c'est-à-dire que les embryons humains seront détruits, mais c'est un premier pas dans la porte, tout le monde le sait, parce qu'après, derrière, la tentation sera vraiment réelle de tester grandeur nature ce qu'on a voulu faire dans une éprouvette. La technique est là, donc la problématique qu'elle contient l'est déjà aussi. Je crois que c'est important de comprendre qu'il y a des injustices dans le projet de loi très, très claires, ou alors qu'ils n'en sont qu'à leur germe. Et tout ce qu'on déplorera demain aura d'abord été voté aujourd'hui.
Il y a des injustices, et puis on y reviendra plus tard dans l'émission. Il y a aussi une manière pour la France de se mettre, on va dire, en porte-à-faux avec elle-même, puisque parfois ce projet de loi donne l'impression d'autoriser pour bientôt des choses qui sont contraires à des conventions internationales dont la France est signataire. Mais je vous propose, quand on parcourt sur ce deuxième chapitre, donc du côté de la société, vous faites appel à un autre livre de science-fiction, enfin en tout cas vous citiez le film Bienvenue à Kataka, donc le meilleur des mondes, et vous racontez donc, vous parlez de la Soma. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est la Soma dans ce livre de science-fiction, parce que vous développez toute une réflexion autour de la question du bonheur.
Oui, c'est un livre extrêmement, extrêmement connu, hein, c'est prophétique si l'on peut le dire. Dans le meilleur des mondes, les enfants sont tous fabriqués dans des machines. Il n'existe plus les enfants de l'amour, tout ça est sale, tout ça est dégradant, donc il n'existe plus que des machines pour fabriquer des enfants, et la procréation est devenue juste de la sexualité est devenue juste récréative. C'est des mots d'ailleurs de Madame
voilà,
Schiappa.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
La sexualité récréative, tout le monde est à tout le monde. Il ne faut pas avoir des relations interpersonnelles trop longues, il faut changer de partenaire. Enfin, la sexualité et la procréation sont totalement déconnectées. Et dans ce monde imaginaire inventé par Huxley, dans lequel on retrouve énormément de problématiques très actuelles, les gens, évidemment, ne sont pas forcément très heureux, même pas du tout. Et donc, il existe la Soma. C'est une drogue que chacun prend régulièrement pour provoquer en soi le bonheur, tout simplement. C'est un palliatif, c'est une manière de s'échapper à la réalité que décrit Huxley, qui est horrible et dans laquelle on ne voudrait pas du tout vivre.
Alors, il y a un certain John qui se révolte contre cela dans cet ouvrage. Et ce John, vous le citez, parce que vous en faites, on va dire, une figure un peu de la résistance contre ce bonheur à tout prix que seraient ces révisions des lois de bioéthique, à vous entendre.
Oui, effectivement, il y a la question de ceux qui auraient pu être les enfants de l'amour. Dans le livre, ça s'appelle les sauvages. C'est ceux qui vivent complètement en marge, qui ont fait des enfants à l'ancienne, sous la couette. Voilà. Et c'est toute une réflexion sur, finalement, la liberté à laquelle on se sent appelé. John, il explique que lui, il veut pas que du soma, parce que oui, il veut se tromper, il veut faire des erreurs, il veut aussi souffrir. En fait, il veut vivre. Et je crois que c'est ça, la question aussi, c'est la question de qu'est-ce que la vie, quoi ? Est-ce que la vie, c'est juste essayer d'être tout paramétré, programmé, imaginer qu'on va s'empêcher de souffrir ? Tout le monde comprend bien que c'est utopique, et je crois qu'il y a vraiment dans notre actualité à reprendre la main sur une certaine liberté, sur un certain regard sur la vie. Au fond, la vie, c'est un risque à prendre, et s'imaginer s'empêcher de souffrir, c'est s'imaginer s'empêcher de vivre, en fait, tout simplement.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, Blanche Trèbe, votre association donc fait partie des associations qui appellent à manifester donc le dimanche 6 octobre. C'est un collectif qui s'appelle Marchons Enfants, avec ce sous-titre contre la PMA sans père et la GPA. Et le surtitre, c'est Liberté, Égalité, Paternité. Est-ce que vous voudriez dire un mot à propos de cette mobilisation? Est-ce que manifester, ça n'est pas un peu peine perdue?
Je crois que c'est important de se mobiliser, de se montrer, de montrer qu'il y a une forte contestation, parce qu'elle est vraiment présente et elle est vraiment forte, la contestation. Les Français sont contre ces changements anthropologiques, toutes ces ruptures. Voilà, donc je pense que c'est important de se mobiliser le 6 octobre. C'est évidemment pas la seule chose à faire, hein, se former, comme vous le proposez à vos auditeurs, par exemple, écrire à ses députés. Enfin, y a un certain nombre de choses qui sont à notre disposition pour montrer que ce n'est pas quelques personnes dotées d'un pouvoir temporaire qui peuvent se permettre de créer une filiation invraisemblable, de dire que le père ne sert à rien ou de dire qu'on pourrait bricoler l'embryon humain sans limite. Je crois que c'est vraiment important que chacun eh bien, se sente appelé dans sa conscience pour lutter comme il le peut. Pour certains, c'est marcher dans la rue, et c'est déjà beaucoup, pour relever ces injustices et espérer être là pour dire non, c'est pas le monde qu'on veut pour demain, pour nos enfants.
Bébé sur mesure, paru aux éditions Artege, c'est le titre de votre livre. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver, parce qu'à la fin, vous nous donnez des notes d'espoir. Et elles sont les bienvenues. Vous appelez ça un sursaut d'humanité. On vous retrouve dans quelques minutes.
Radio Présence à Millau, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
PMA pour toutes, ce qu'il faut savoir, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec Blanche Strèbe, auteure donc d'un ouvrage Bébé sur mesure paru aux éditions Artege. J'aimerais en ce début de dernière partie d'émission, Blanche Strèbe, revenir sur quelques-unes des conventions internationales, des déclarations et autres que la France a ratifiées ou dans lesquelles elle se reconnaît, et voir comment la la France est en train de se mettre en porte-à-faux, en tout cas c'est ce qu'on découvre en lisant votre ouvrage, presque avec elle-même, j'ai envie de dire. Vous citez entre autres la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de 1997, Déclaration universelle donc de l'UNESCO, qui est un interdit qui est posé quant au clonage et que vous étendez à la manipulation du génome humain. Parlez-nous de cette déclaration universelle.
Oui, ce qui est intéressant de relever sur ce point-là, c'est que le clonage est condamné de manière internationale et aussi dans notre droit, hein, comme étant un crime contre l'espèce humaine. Et c'est intéressant de se dire que en faisant naître quelqu'un par clonage, on considère que c'est un crime. Donc on donne la vie, c'est quand même un crime. C'est intéressant et c'est d'ailleurs vrai. Enfin, je considère que c'est vraiment un crime contre l'espèce humaine. Et donc on est aujourd'hui en train d'évoquer des manipulations qui ne sont pas du clonage, mais qui sont du même ordre, éthiquement parlant. Et on n'a pas réussi à les mettre dans la même catégorie, parce qu'on n'est plus dans la même philosophie, dans les mêmes précautions éthiques qu'au moment de la brebis Dolly, là, quand on a renforcé notre droit pour nous protéger de ça. Là, aujourd'hui, on a des menaces très claires, mais on ne renforce pas notre droit.
Mais alors, comment vous passez de l'un à l'autre, entre clonage et on va dire, modification du génome humain ou manipulation génétique, comment vous faites la bascule et vous considérez que ça devrait être sous le même régime d'interdiction légale?
Bah, c'est du même ordre parce que c'est du bricolage du génome d'une personne. Le clonage, c'est faire naître quelqu'un qui a le même génome que quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc le clonage. La FIV 3 par an, la modification du génome. On ne prend pas le même génome que quelqu'un, mais on modifie, on fabrique de toutes pièces un génome complètement bricolé. Donc on est quand même dans le même type de folie procréative, méthode d'apprenti sorcier. C'est vraiment du même registre. Et sur cette question des conventions, on peut aussi évoquer... C'est vrai que la France, je crois, elle a une vocation quand même particulière. Elle a une bioéthique à la française, des grands principes, non-marchandisation, par exemple, non-marchandisation du corps. Ces grands principes font que la France est regardée de manière très particulière par les autres pays pour le respect qu'on peut accorder. On est le pays des droits de la personne, quand même. On peut en être fier. Malheureusement, les digues s'effondrent, en particulier là, dans ce projet de loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut relever et sur lequel on peut aussi, je trouve, se désoler un peu.
Il y a un autre accord international qui, cette fois, concerne plus directement la PMA. La PMA pour toutes ou la PMA sans père, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette convention que la France a ratifiée et ce qu'elle spécifie ?
Oui, c'est la convention la plus ratifiée au monde, même d'ailleurs, cette convention qui vient protéger les droits de l'enfant. Et effectivement, le projet de loi PMA qui ouvre à la privation délibérée d'un enfant de son père, par la PMA pour couple de femmes ou pour les femmes célibataires, vient complètement violer cette convention que la France a signée, en particulier dans son article 7, qui dit que tout enfant a le droit d'être élevé par ses parents, dans la mesure du possible, parce qu'il peut y avoir toujours un accident de vie, mort, etc. Mais en tout cas, c'est très clairement expliqué par les juristes que ce projet de loi vient contredire ce que nous avons nous-mêmes ratifié.
De connaître et d'être élevé, hein. c'est
de connaître les deux mentions, et d'être élevé, oui, exactement, pardon. Oui, de connaître et d'être élevé par eux dans la mesure du possible. Oui.
À la fin de votre ouvrage, vous avez donc toute une réflexion sur la responsabilité individuelle. Ça n'étonnera pas les auditeurs. J'ai relevé entre autres une phrase, la responsabilité est le prix de la liberté. Voilà, vous citez bien des philosophes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce sujet ou qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec les auditeurs? J'en imagine que vous avez beaucoup lu, passé du temps à écrire tout cela. Vous citez entre autres à ce sujet Cicéron ou Chantal Delsol. Voilà, le lien entre liberté et responsabilité, qu'est-ce que vous pourriez nous partager?
Je crois qu'on fait tous le constat qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, où c'est le désir individuel qui devient la loi. Très clairement, dans ce projet de loi, c'est de ça qu'on parle, hein. Et finalement, Avant, on était tous d'accord sur ce qu'est la condition humaine, la nature humaine, et c'est là-dessus qu'on fondait finalement nos droits qui visaient surtout à nous protéger, en fait. Maintenant, les droits, ils servent, ils s'est basculé dans une autre dimension, ils servent à, on considère qu'ils servent la condition individuelle, ils viennent servir nos propres désirs. Or, la vie en société, c'est pas juste, je crois, les désirs des uns et des autres qui doivent essayer de cohabiter entre eux. C'est le fait qu'il y a le bien commun. Il y a le fait que des décisions individuelles impactent la société entière. Il y a le fait que nos décisions peuvent impacter. Là, si on reste sur la question qui nous habite aujourd'hui, la question de la PMA, je crois que c'est important de comprendre que on donne pas juste la vie à un enfant, mais qu'on le donne à sa vie. Et ça doit nous habiter pour nous aider à comprendre qu'il y a des modes de procréation qui ne respectent pas la dignité humaine. C'est aussi voilà, quelque chose qui est bien développé par un document que les évêques ont édité, hein, la dignité de la procréation. J'invite les éditeurs à regarder ce texte qui a été co-signé par tous les évêques de France, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare, voilà, et qui montre bien que la dignité humaine, elle implique la dignité de la procréation. Par exemple, pour être plus clair, on pourrait penser à la gestation pour autrui, qui est totalement indigne pour les femmes, pour les enfants. On marchande les corps, on marchande les enfants. Et on voit bien que même si la conséquence de cette injustice est bonne, l'enfant est une bonne chose toujours et à jamais. La manière dont il a été conçu est contestable et nous devons la contester.
Blanche Trèbe, est-ce qu'il y a des recours imaginables, possibles pour les associations que vous êtes, peut-être même pour les citoyens que nous sommes, à une échelle plus grande que la France? Ce sont des choses qu'on a vues récemment à l'occasion de d'autres affaires. Est-ce qu'il y a des recours auprès de l'Union européenne, auprès de l'ONU? Et est-ce que vos associations ou la vôtre ont prévu des démarches en ce sens?
On travaille avec, en partenariat avec d'autres et aussi nous à l'international. Nous avons une section Vita International. Juridiquement, j'aurais du mal à projeter des choses sur le futur. Je ne suis pas une experte et voilà. Mais par contre, ce que je crois vraiment, ce que m'a évoqué votre question, que je trouve pertinente, je crois que le recours viendra du bon sens lui-même. Je crois que quand on est dans une idéologie comme aujourd'hui ce qu'on observe, le réel revient toujours en boomerang. Parfois, ça me fait mal. Il y aura des larmes d'ici là, mais le réel reviendra toujours. Par exemple, vous voyez que ceux qui sont nés d'un don anonyme, aujourd'hui, viennent nous expliquer, et tout le monde est d'accord pour dire que la quête des origines est importante. Et donc, on va lever cette question de l'anonymat. Mais je crois que dans le futur, les bébés génétiquement modifiés, etc., c'est le retour au réel, c'est la vraie vie des vrais gens qui traverseront ça, qui nous montrera qu'on s'est trompé.
J'aimerais qu'on finisse sur une note plus positive ou plus contemplative. Vous citez donc Cicéron, qui est lui-même cité par la philosophe Chantal Delsol dans votre ouvrage. Les enfants portent en eux l'éternité que nous interdit notre condition humaine. L'enfant nous engage dans la durée. Il est le passage de ce que nous sommes en tant qu'individu limité à l'éternité de ce que nous sommes. C'est-à-dire que les enfants portent en eux la suite de la société et de la communauté humaine, parce que la société et la culture doivent vivre au-delà de l'homme limité dans le temps. Les enfants nous engagent dans la durée. Ils sont le passage que nous sommes presque vers l'éternité, on a l'impression à lire Cicéron. Fort de toutes ces révisions, est-ce qu'au final il vous reste d'abord ce regard contemplatif et émerveillé devant le mystère de la vie et des enfants qui est à naître?
Mais complètement. C'est vraiment d'ailleurs mes entrailles qui sont touchées par ce que vous dites. D'ailleurs, je sors un témoignage dans un mois où j'explique les racines en fait de mon engagement, et c'est complètement ce que vous venez de décrire. C'est la contemplation de la maternité. C'est aussi cette prise de conscience que ma vie personnelle m'a amenée à faire sur la fragilité de l'embryon et l'importance qu'il y a aujourd'hui à réhumaniser notre regard sur l'enfant à naître. Et effectivement, moi, ce qui me donne vraiment envie de rendre le monde meilleur, alors c'est de manière très humble, hein, la petite goutte d'eau dans l'océan, mais laisser c'est mes enfants, en fait. C'est que j'ai envie pour eux, j'ai envie de... je vois l'avenir différemment depuis que j'étais enfant, je vois le monde différemment, je vois les implications des uns avec les autres de manière différente. Et c'est vraiment pour eux, parce qu'ils sont, je crois, toujours un don, que j'ai envie d'œuvrer, tout petit, hein, mais... pour embellir notre monde et apporter un certain nombre de prises de conscience. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans la dernière partie de mon livre, j'ai vraiment voulu appeler à un sursaut éthique pour l'humanité, à voir la vie de manière positive, à cultiver le goût de la vie. Parce que je crois qu'en fait, moi, ce qui me résume, c'est que je crois qu'il n'y a alerte éthique que parce qu'il y a d'abord hymne à la vie. Et c'est un peu la phrase que je me répète souvent, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de porter aussi quand je partage, alors parfois de manière alarmiste, mais vous avez raison de me réorienter là-dessus. Ce que j'ai vraiment à cœur de partager, c'est un hymne à la vie, tout simplement.
Et puis vous citez aussi Antoine Saint-Exupéry, donc je vais le citer en même temps que vous, c'est l'esprit qui mène le monde et non l'intelligence. C'est l'esprit qui mène le monde et non l'intelligence. Blanche Trèves, je rappelle le titre de votre livre, Bébé sur mesure, avec ce sous-titre Le monde des meilleurs, paru aux éditions Arthège. Et donc cet appel de Vita, comme de d'autres, les AFC, les Sentinelles, les Veilleurs, voilà, Vigigender, ou la Manif pour tous, à cette mobilisation donc le 6 octobre prochain. Marchons enfants, une manière comme une autre, comme vous l'avez dit, de se manifester, comme l'a dit le porte-parole de la conférence des évêques de France. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.